À la rencontre de ceux qui font l'actualité dans l'Est ontarien, Guillermo sur la Go. Voici Guillermo Todesa.
Alors, je suis en direct de Chute à Blondeau pour une rencontre Altno qui s'oppose au projet de train à grande vitesse qui devrait passer dans Prescott-Russell. Et ce soir, je m'entretiens avec M. Jean Saint-Pierre, qui est président de Bois-et-Est. Bonsoir, M. Saint-Pierre, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Et puis là, ce soir, on est encore une autre rencontre très importante, Altno, qui s'oppose au projet de train à grande vitesse. Vous y voyez beaucoup de problèmes. Par où commencer, premièrement?
Par où commencer, c'est une bonne question. Je pense que la raison d'être, je pense que le projet en soi doit vraiment être revu en ce qui a trait à sa raison d'être. Le plan d'affaires que Altno nous présente semble être très vague, très peu détaillé. Et on a beaucoup de difficultés à comprendre la justification économique. Les gens nous disent, les gens qui sont très compétents en économie, nous disent, bien, les données que vous nous donnez en ce qui a trait à l'achalandage d'utilisation, en ce qui a trait au coût, en ce qui a trait à l'intérêt de la part des citoyens de prendre un train à grande vitesse pour se rendre des grandes villes, que ce soit Montréal, Ottawa, Toronto, est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour justifier une dépense, comme on sait, astronomique? On parle de 60 à 90 milliards de dollars, mais on sait très bien aussi que les projets de cette envergure-là, normalement, sont dépensés de beaucoup. On parle des fois de 1,2 fois, 1,2 fois, 3 fois, 1,4 fois, 1,5 fois. Alors, les gens qui s'y connaissent un peu disent, bon, ben ça, c'est une estimation très, très vague. Et il faut se poser la question. C'est un système qui va être payé par le gouvernement fédéral. Alors, ce sont des deniers publics qui vont être utilisés pour la création, la construction. Alors, c'est une question fondamentale à savoir s'il y a un plan d'affaires qui est suffisamment bien étoffé pour le justifier. Alors, ça, c'est la première question. Il y a d'autres questions qui sont sans réponse à ce jour. C'est en ce qui a trait aux impacts sur les terres agricoles. La région de Prescott-Russell est reconnue pour avoir des sols très riche, très utile, très utilisé. Et évidemment, le train va avoir des vrailles dans un endroit où il y a peut-être 60-70% de ces terres-là qui seront sectionnées en deux parties. Après ma base, ça donne l'impression que c'est pas très important, ça. Mais lorsqu'on discute avec les gens qui sont des experts en agriculture, ben, ils nous disent très clairement que si on est pour sectionner avec une raille qui, évidemment, on ne peut pas la traverser, c'est une raille qui va être bordée d'une clôture, considérant la vitesse à laquelle ce train passerait, ben, les gens ne pourront pas la traverser autre que de passer sur des ponts qui seront à des distances qui peuvent être 3, 4, 5, 6 kilomètres de là. Alors, revenons à nos agriculteurs et agricultrices. Ils ont plusieurs fois par année, par été, ils ont besoin d'aller faire des travaux, que ce soit dans l'ensemencement, préparation, faire l'entretien de leur terre. Ah bien, ces terres-là ne seront pas accessibles de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, ça implique des détours très importants pour eux, et 3, 4, 5, 6 fois par année. Et on sait tous maintenant que les agriculteurs utilisent de la machinerie très grande, très grosse, très lourde. Alors, ce sont des impacts économiques très importants pour eux, non seulement en frais pour utiliser ces instruments-là, mais aussi en temps. Alors, les gens du domaine nous disent... C'est tellement important que ça pourrait mettre en risque la rentabilité de certaines fermes. C'est pas bonheur. En ce qui a trait aux forêts, parce qu'on estime peut-être 30% du territoire sera recouvert de forêts qui devra être sectionné là aussi. Alors là, la question est en ce qui a trait à l'impact sur les forêts. Faire un corridor, on nous dit 60 mètres. 60 mètres, c'est quand même 60, en fait, à peu près 180 pieds de large. C'est beaucoup plus large qu'une voie ferrée ordinaire. Juste pour donner une approximation, une voie ferrée ordinaire, c'est à peu près 25 mètres. Et puis celle-ci, bien, ça serait 60 mètres, presque deux fois et demi plus large. Et évidemment, encore une fois, avec une clôture des deux côtés. Alors, l'impact dans une forêt d'avoir un tracé comme celui-là sera pas banal parce que, évidemment, comme les agriculteurs, les gens ne pourront pas avoir accès à certaines parties de leur forêt. Il est possible qu'ils aient plus accès du tout parce que de l'autre côté de la clôture, bien, il pourrait y avoir aucun chemin qui le rende accessible. Alors, ce sont des questions que l'on a posées. Et puis, malheureusement, ce jour, on a eu très peu de réponses claires. On parle de compensation pour les agriculteurs, ce qui est très bien, essentiel. Mais il faut penser aussi à bien, bien des années. Ce n'est pas juste une année ou deux années, ce sont des décennies auxquelles on devrait considérer, parce que ces impacts-là vont avoir un effet cumulatif. La même chose pour les forêts.
Vous me faites penser, M. Saint-Pierre, dans le tracé qu'on a approximatif jusqu'à maintenant d'Alto, imaginez que, disons, le rail doit traverser la forêt La Rose. Ce serait une catastrophe écologique.
Traverser la forêt La Rose, ce serait terrible en ce qui a trait à détruire une forêt qui est extrêmement bien gérée. C'est une forêt qui est gérée avec les normes, ce qui s'appelle FSC, Forest Stewardship Council. Et ce sont des normes très élevées pour bien gérer une forêt, pour s'assurer que les arbres sont maintenus en santé lorsqu'il y a des arbres qui sont morts, quand on veut faire la résilience, créer une forêt résiliente, on doit utiliser des techniques qui sont très importantes. Ça serait terrible parce qu'il y a plusieurs espèces en péril dans cette forêt-là. J'ai eu le plaisir de collaborer à leur plan de gestion. Et puis, c'est extrêmement bien géré. Les espèces qui y vivent doivent être protégées. En fait, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a certaines sections de la forêt qui sont gardées un petit peu à l'écart, justement pour permettre ces espèces qui sont rares de pouvoir survivre. Il y a aussi, évidemment, au niveau de la faune, c'est très important de pouvoir avoir accès à une grande superficie. On peut facilement penser à nos chevreuils, à nos orignaux. Ils ont besoin d'une très grande superficie. Alors, si le tracé passait à travers la forêt rose, ça serait désastreux en ce qui a trait à la capacité des animaux. On peut parler des orignaux, des chevreuils, des plus petits animaux aussi, qui ont besoin d'avoir des grands territoires pour des raisons génétiques. Il faut y avoir des grands territoires pour permettre une mixité de différents animaux pour maintenir une diversité au niveau génétique. C'est très important. Il y a aussi, évidemment, les oiseaux. On y pense, on les apprécie beaucoup à ce temps-ci de l'année. Ils reviennent de leur voyage de migration, mais ils ont besoin de beaucoup d'espace aussi. Il y a certains oiseaux qui doivent avoir un accès à l'intérieur d'une forêt, jusqu'à 100 mètres à la périphérie de la limite d'une forêt. Alors, ce serait extrêmement décevant, vraiment, à mon égard, comme biologiste, je trouve que ce serait inacceptable de faire passer un train à grande vitesse dans une forêt qui est très bien gérée, extrêmement importante au niveau du maintien de la biodiversité. Alors, ce serait vraiment mal. Ce serait un petit peu la même chose dans les plus petites forêts, mais évidemment, la forêt publique, qui est bien gérée, la forêt La Rose, qui est bien appréciée des centaines de milliers de personnes par année, ce serait très, très décevant.
Monsieur Saint-Pierre, vous voyez aussi un problème de la part d'Alto, de la transparence et la communication envers les citoyens. On a eu des nouvelles de la part du PDG d'Alto, Monsieur Martin Imbleau, qui a donné certaines informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pensez des informations qui sont sorties?
À ce jour, Oise-et-Est a soumis des questions à l'organisation pour avoir un peu plus de clarification des réponses en ce qui a trait à nos préoccupations. Et malheureusement, les réponses qui nous ont été offertes sont très vagues, n'adressent pas vraiment les questions que l'on leur a posées, précisément en ce qui a trait à la largeur du tracé. On est relativement déçus. Je crois que on n'est pas les seuls à être déçus de la précision à laquelle ils peuvent répondre à des questions qui sembleraient, il me semble, d'un projet de cette envergure-là aurait dû être réfléchi et on devrait avoir accès à ces préoccupations-là. On parlait d'écologie. On peut parler aussi au niveau de la perte des services écosystémiques. Ce sont la séquestration de carbone, c'est la filtration d'eau, filtration d'air. Quand on parle d'une forêt, des arbres, réduction des inondations. On n'en parle pas, on ne semble pas considérer que les forêts ont des rôles très importants, non seulement pour la faune et la flore, mais aussi pour les humains, parce qu'on sait bien maintenant que les forêts sont souvent très utiles pour les gens qui veulent relaxer, qui veulent observer la nature. C'est très, 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 très utile, ça améliore la qualité de vie des gens. Alors, la majorité des questions, en fait, il n'y a pas de réponse qu'on a reçue qui était suffisamment étoffée pour vraiment comprendre leur niveau d'appréciation des forêts. On peut aussi parler des érablières. Ça aussi, ça semble être complètement ignoré à ce jour dans l'information qui nous a été offerte. Pourtant, les acériculteurs qui produisent le sirop d'érable, c'est un produit extrêmement valorisé et on ne semble pas être capable de dire, bien, voici quelles sont les méthodes que nous allons utiliser. On dit qu'on va essayer d'éviter certaines régions qui sont importantes. Bien, les acériculteurs ont des produits extrêmement importants, non seulement pour eux, mais aussi pour... c'est une façon de valoriser une forêt. Et à ce jour, on a très peu d'informations pour comprendre quelle va être leur approche. Alors, tout ça pour dire que à ce jour, on a plus de questions que de réponses, mais on poursuit. Cette initiative-là a des effets importants, très négatifs sur le bien-être des gens. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Des communautés qui seraient possiblement touchées par cette rail-là, ce train à grande vitesse, sont très préoccupées. Et les gens en milieu rural sont vraiment en désarroi face à cette situation. Il y a un manque d'information, un manque de transparence et on devrait prendre ça au sérieux et agir. C'est pour ça que des sessions comme celle-ci sont très importantes pour partager les préoccupations des gens, les pistes pour à savoir qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il y en est et aussi poser la question ultime, est-ce que c'est un projet qui est justifiable présentement? Il y a peut-être des pistes, il y a peut-être d'autres pistes, il y a peut-être des trains qui pourraient être installés le long du corridor routier. Ça a été proposé, ça, d'avoir un train qui peut-être qui ne soit pas à très grande vitesse, si on parle de 300-330 km à l'heure. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un train qui irait peut-être pas aussi vite, mais qui serait peut-être aussi utile, et peut-être aussi un train à grande fréquence. Parce qu'on parle de train à grande vitesse, on parle en ce moment-là de 330 jusqu'à 330 km/h, mais un train à grande fréquence pourrait probablement satisfaire la majorité des gens et peut-être avoir des arrêts plus fréquents. Parce qu'en ce moment, on sait trop bien qu'il va y avoir un arrêt à Toronto, un arrêt à Peterborough, un autre arrêt à Ottawa, à Montréal, Trois-Rivières et tous les petits villages à l'intérieur de ces régions-là n'auraient pas accès à ce train-là. Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? Est-ce que ça va vraiment être utile pour une plus grande proportion de gens? Ça reste à voir. On ne le sait pas, mais on aimerait bien avoir des réponses à ces questions-là par des gens qui sont connaissants, compétents, peut-être indépendants aussi, parce qu'en ce moment, on nous fournit seulement l'information d'Alto. Et puis en soi, je crois que ça serait bien d'avoir l'information de tierce partie indépendante pour être capable de partager des analyses bien faites.
Monsieur Saint-Pierre, je pense que vous reprochez aussi à Alto son manque de transparence. Monsieur Imbleau s'était donné des chiffres. On parle de 1700 propriétés qui seraient impactées par le train à grande vitesse. On parle de 500 terres agricoles aussi qui seraient touchées. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça?
Bien, précisément, ça, c'est un bel exemple de transparence que je crois les Canadiens, les gens de l'Est ontarien ont droit à recevoir. Récemment, en fait, hier, il y a eu une entrevue avec M. le ministre des Transports dans laquelle il disait clairement que le tracé du TGV n'est pas encore décidé, assure M. Stephen McKinnon. Bon, c'est bien qu'on se fasse dire ça. Par contre, et ça c'est dans la même phrase, par contre, le PDG de Alto a dit, il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être deux semaines maintenant, qu'il y avait déjà identifié, il a dit lui-même, il avait déjà identifié jusqu'à 1700 parcelles de terrain ou des sections ou des lots qui devront être soit achetés ou expropriés. Alors, la question qui est venue auprès de bien des gens, c'est comment avez-vous pu identifier 1700 parcelles ou lots de terrain sans savoir où le tracé passera? On concède que sur les 1700, M. Imbleau a dit qu'il y avait 500 parcelles qui étaient des parcelles agricoles. Alors, ce sont des grandes parcelles, peut-être que la précision n'était pas nécessaire, mais quand on laisse tout de même 1200 par petite partie de terrain, bien, ça sous-entend qu'on sait avec plus de précision la taille de ces parcelles de terrain-là ou l'eau à acheter ou à exproprier. La question qu'on a, qui je n'ai pas de réponse encore et que j'ai l'intention de poursuivre ça, c'est à savoir comment M. Imbleau peut-il dire qu'il va y avoir 1700 parcelles de terrain sans savoir le tracé. Alors, la réponse de M. McKinnon, je me répète ici, que le TGV, le tracé du TGV n'est pas encore décidé, assure M. le ministre du Transport. Alors, je suis content de savoir que ça, de sa perspective. Par contre, son bras droit, le PDG de Alto, dit, encore une fois, qu'il y a déjà 1700 parcelles. Il y a quelque chose qui semble pas être clair, on va le dire comme ça. J'ai l'intention de faire le suivi à propos de ça. J'espère avoir une réponse et ça me fera plaisir de vous la partager à ce moment-là parce que la transparence, c'est très lié à la crédibilité. Et si on n'a pas la transparence, ben, il n'y a pas de crédibilité. Alors, c'est une observation que les gens nous passent aussi. Il y a très peu d'informations et puis l'information, quand elle nous sort, elle n'est pas très utile. Et puis, on se doit, je pense, comme citoyen, comme tous les gens qui demeurent dans la région, non seulement ici, mais aussi ailleurs, parce que, bon, ce sont des deniers publics, n'est-ce pas, qui vont payer pour ce projet-là. Alors, c'est important que tous les gens au pays qui savent, voient, entendent qu'il va y avoir un projet de cette ampleur-là, bien, que c'est bien fondé, qu'il y a un bon plan d'affaires, qu'il va être utile. Et je crois que la question devrait être posée à tous les gens pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet-là. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations de ces montants, encore une fois, très importants? On parle de 60, 90 milliards de dollars et même plus. Ben, est-ce que c'est une bonne utilisation des deniers publics? La question est là. Moi, je tiens à essayer de trouver un peu plus qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là.
On se parlait dans le stationnement, M. Saint-Pierre, vous m'avez parlé que vous avez posé une question de savoir que si il y a un arbre à côté du rail, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Ben, on m'a répondu, en fait, j'ai posé la question bien précise. Si vous avez à passer à travers une forêt, et la forêt, c'est soit une forêt mixte avec des arbres adultes ou une pinède. Il y a des gens qui ont des pinèdes, des plantations de pins. Et ces arbres-là peuvent atteindre une taille assez imposante, 20 mètres et même plus. Alors, la question était bien simple. Qu'est-ce que vous allez faire avec le tracé de, on dit, 60 mètres avec une clôture de 10 pieds des deux côtés? Bien, la réponse était, bien, on va faire venir un arboriste pour voir qu'est-ce qu'on va nous recommander de faire. Bien, la raison est bien simple, ou l'action bien simple, ce serait simplement de considérer couper ces arbres-là parce qu'il n'y a pas de bon gestionnaire d'un train à grande vitesse qui voudrait pas faire passer un train à 300 quelques kilomètres à l'heure lorsqu'il y a des arbres à droite et à gauche qui pourraient, avec un coup de vent, où il y a des arbres qui meurent, il y a des tempêtes qui sont peu prévisibles à l'occasion. Alors, essentiellement, je crois que c'est... Moi, j'ai fait le calcul, puis je me suis dit, bon, ben ça ne tient pas la route. Si je veux faire un estimé de la superficie de forêt qui devrait être coupée, ben j'ai fait un tracé, puis je n'ai pas juste limité à 60 mètres. J'ai dit, bon, ben ça va être 60 mètres, plus 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, ça fait 100 mètres de large, ça fait presque 300 pieds de large. Alors, quand je mentionne ça à mes collègues, c'est 300 pieds de large dans une forêt. C'est un corridor immense. Je n'aurai pas accès de l'autre côté de ma forêt. Puis je vais perdre aussi des revenus, parce qu'une forêt, ça produit du bois, ça peut produire des fruits, il y a des vergers. On n'a pas parlé des vergers, mais il y a des produits qui sont très importants. Il y a aussi des services écosystémiques. Ce sont des services qui maintenant sont quantifiables au niveau monétaire. Ce sont tous des pertes que non seulement le propriétaire de la boisée va perdre, mais aussi la société. Parce que les gens, quand ils ont des boisées, ils offrent des services qui sont bénéfiques à toute la population. Alors, ça, c'est une préoccupation. À ce jour, on n'a pas de réponse à ces questions-là. C'est malheureux parce que, bon, un projet de cette ampleur-là, on devrait s'attendre à avoir des études, des gens qui sont compétents, qui ont fait des recherches et puis... À ce jour, je pense qu'ils ne sont pas rendus là encore. C'est malheureux. Pourtant, on veut aller très, très rapidement pour la construction de ce projet-là. Il y a une préoccupation aussi à propos des gens, ce qui a trait au fait que si on outrepasse les bonnes pratiques d'évaluation, il pourrait y avoir, et il va sans doute avoir, des problèmes. J'ai aussi mentionné, à d'autres occasions aussi, l'utilisation des herbicides le long du tracé, parce qu'on sait bien qu'un train qui roule à cette vitesse-là ne peut pas faire face à que ce soit des herbes très denses ou que ce soit des arbustes. Alors, l'utilisation d'herbicides pourrait être problématique. C'est ce qu'on fait ailleurs, à ce qu'on me dit dans d'autres pays. Mais ces herbicides-là ne devraient pas être en contact avec des arbres qui produisent du sirop d'érable ou des cultures biologiques. Il y a un contrôle très sévère qui est nécessaire pour éviter que tout produit non conforme à une culture biologique, incluant évidemment le sirop d'érable. Alors, ces questions-là sont, d'après moi, je ne les ai pas posées formellement auprès d'Alto, mais ça devrait être faire partie de leur réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Il y a évidemment de la pluie verglaçante à l'occasion en hiver ici. La question a été posée à savoir qu'est-ce que vous allez faire, parce qu'on connaît un peu ce qui s'est passé à Ottawa avec le train léger. Il y a des problèmes parce que la glace peut créer d'interférences. On ne parle pas d'un petit train qui fait 30-40 km à l'heure. C'est 330. La mécanique est complètement différente. Alors, il va y avoir, à ce qu'on nous dit, des produits chimiques pour déglacer les rails. Quels vont être ces produits? Quels sont leurs impacts au niveau environnemental? Comment vont-ils être répandus? Et les questions aussi ne se limitent pas à ça. Comment allez-vous faire pour faire la surveillance, le monitoring, la surveillance de ces produits-là au fil des années? Pas juste les prochains 5 ans, là, pour les prochains 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que c'est un engagement, on devrait avoir un engagement. Il devrait avoir un engagement auprès des propriétaires de terrains, de cultures, de plantations, de vergers, d'érablières, un engagement à très long terme. Parce que ce sont eux qui veulent utiliser nos terrains. Alors, je crois que ce sont eux qui ont l'obligation de nous fournir des balises qui vont permettre de rassurer les gens que leurs activités agricoles vont pouvoir perdurer au fil des décennies. J'ai rien vu en ce moment. Puis de ce que j'ai compris auprès des autres associations qui ont aussi les mêmes préoccupations, l'association des propriétaires en Ontario, qui sont beaucoup plus gros que Boisès, nous, c'est une relativement petite association, il n'y a pas rien en ce moment qui a été formulé de la part d'Alto. Ça devrait être fait, ça doit être fait pour rassurer les gens.
On a vu la semaine dernière que Alto a fait comme des démarches sans prévenir les municipalités, la ville d'Ottawa, faire des marques sur certaines rues, utiliser des drones. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est très malheureux. Là aussi, c'est un bon exemple très malheureux d'une initiative de la part d'une organisation qui ne semble pas bien comprendre son rôle en ce qui a trait à des mesures quelconques. C'est un peu ambigu à savoir pourquoi on voulait capter certaines données avec l'utilisation de drones. Mais c'était très, très décevant parce que ce sont les citoyens d'une communauté pas tellement loin de chez moi, puis il y en a eu plusieurs d'ailleurs, qui ont vu ces drones se promener par-dessus leur propriété sans savoir qu'est-ce que c'était, qui étaient ces drones-là, qui appartenaient, quelle était la fonction. Par la suite, à peu près en même moment, ils ont observé qu'il y avait des marques sur les rues, des croix en peinture blanche, d'à peu près un mètre, peut-être pas un mètre, peut-être 40, 50 centimètres de long. Et c'était préoccupant. Alors, les gens ont, avec raison, communiqué avec leur conseillère municipale. La conseillère municipale a fait des appels auprès d'Alto et initialement, on nous a écrit, en fait, madame la conseillère a écrit qu'on a refusé la responsabilité de la part d'Alto. Bon, ça semblait être un dilemme pas résolu. Par la suite, il y a eu, je crois, encore plus de pression, plus de commentaires, plus de questionnements. La conseillère aurait refait la demande et à ce moment-là, Alto aurait dit « Ah! » Oui, c'est nous. C'est un sous-contractant qui faisait ces travaux-là. C'est aussi très ambigu à savoir pourquoi on faisait aller ces drones-là sur les terrains pour savoir pourquoi. Je relisais aujourd'hui avec précision quelle était la raison d'être de ces... On semble dire que c'est pas tout à fait relié avec... Bien, si l'initiative part d'Alto, j'ose croire qu'il y a une raison d'être de la part d'Alto. Parce que, entre vous et moi, je pense qu'on ne devrait pas faire des choses pour quelque chose quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, c'est préoccupant. Ça touche beaucoup, je pense, la transparence. C'est très malheureux parce que les gens se doivent de savoir quand ça se passe chez eux, au-dessus de leur tête, de ne pas être capables de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, à quelle raison, même pas d'autorisation. Alors, Alto aura dit qu'ils ne leur feront plus. Mais rien n'empêche, pourquoi est-ce que vous avez fait ça et pourquoi vous ne l'avez pas communiquer auprès des gens qui sont impliqués par ça, surtout au niveau des propriétaires. Bon, la ville, c'est important, ils devraient savoir qu'est-ce qui se passe, faire des marches sur les rues, ça se fait pas, mais au niveau... Et ça crée de l'anxiété de la part des gens. Et puis ça, c'est le bien-être, ça vient attaquer le bien-être des gens, et ça, je trouve que c'est intolérable, inacceptable.
Dernière question, M. Saint-Pierre, puis je suis persuadé qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Votre opinion, est-ce que Alto sait déjà où va passer le TGV?
À savoir si Alto a déjà pris la décision d'aller de l'avant avec leur projet de train de grande vitesse? J'espère que non, parce que la raison d'être de ce projet-là est très peu acceptable maintenant auprès des résidents du milieu rural. Et ce projet-là va avoir des effets négatifs importants des milieux ruraux. Est-ce que ça va être fait aux dépens des milieux ruraux, des milliers de personnes qui vivent dans les milieux ruraux? Ça serait extrêmement décevant que ça se produise comme ça. Et j'ose croire que les Canadiens, les gens qui sont responsables de la prise de décision, vont revoir en profondeur la raison d'être et ajuster en fonction.
Monsieur Jean Saint-Pierre, président de Boisé-Est, merci beaucoup pour votre temps, puis on va se reparler très bientôt.
Ça me fait grand plaisir. Au plaisir de vous revoir.
C'était Guillermo Tolosa à Chute à Blondeau pour IGL.
Cet épisode de Guillermo sur la Go a été rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
92.1 Go FM.